Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Jean-Claude Rouchouz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux en Drôme.
Voilà, c'est une nouvelle association puisque l'assemblée constitutive a eu lieu le 2 avril 2012 et elle est parue au journal officiel le 5 mai 2012. Donc c'est vraiment
très récent.
Très récent.
Personne ne sait encore tout à fait ce que vous allez faire. Nous allons passer quelques temps ensemble pour justement présenter cette association.
Eh bien, c'est avec plusieurs personnes depuis plus d'un an. On s'est intéressé aux cimetières familiaux de la Drôme, c'est-à-dire ces petits cimetières que l'on voit au milieu des champs, qui sont dispersés un peu partout.
Ce qu'on appelle localement des cimetières protestants. Hein.
Voilà, on appelle ça des cimetières protestants parce qu'en effet, leur origine vient du protestantisme.
Qui étaient les seuls à avoir le droit d'enterrer leur mort dans leur propriété, contrairement aux églises où il fallait être dans les cimetières municipaux.
Voilà, c'est-à-dire qu'à l'origine, quand le protestantisme est apparu dans la Drôme, c'est-à-dire à partir des années 1520, il y a eu assez rapidement des conflits qui sont intervenus entre catholiques et protestants. Et donc, à un moment donné, les protestants ont été interdits de cimetières catholiques.
Ce n'est même pas un choix délibéré de...
Ce n'est pas un choix délibéré. Et donc, à ce moment-là, ils se sont enterrés chez eux, dans leur propriété, dans leur champ. Ça a duré un certain temps. Il y a eu aussi une période où il y avait vraiment des cimetières protestants et des cimetières catholiques côte à côte ou à une certaine distance. Mais c'est quand même une situation de conflit qui est à l'origine tout de même de l'existence de ces cimetières familiaux. Et cette nécessité des cimetières familiaux protestants, alors c'est accentué quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, donc a interdit la religion réformée. À ce moment-là,
toute autre religion que la sienne.
Voilà. Donc à ce moment-là, les protestants n'avaient que deux choix. Soit se convertir, devenir catholique, trois choix finalement, soit se convertir, devenir catholique, soit résister et plus ou moins se mettre à l'abri dans des villages isolés, soit résister ou s'exiler. Et en fait, c'était partagé à peu près un tiers. Donc de nombreux protestants du Lillois sont partis en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et même jusqu'en Afrique du Sud.
Le Diwa n'était pas la petite région enclavée et protégée qu'on connaît du temps de Louis XIV ?
Non. C'est une région où le protestantisme était fortement implanté. C'est-à-dire que vers 1560, il y avait pratiquement, trois quarts de protestants et un quart de catholiques. Donc c'était, et en plus, avec l'édit de Nantes d'Henri IV, dit était une place de sûreté pour les protestants. Et à Die, il y avait une académie protestante, donc une école de théologie où on enseignait la théologie, la philosophie, le latin. Donc c'était un centre protestant très important. Ensuite, donc, il y a eu toute cette période de guerre de religion qui a duré 30 ans environ. L'édit de Nantes d'Henri IV a pacifié la France, on peut dire. Hein. Mais ensuite, à partir de Louis XIII, l'intolérance vis-à-vis des protestants est revenue et Louis XIV, lui, a révoqué carrément l'édit de Nantes. Et, alors, il y a eu toute une période donc, où les protestants devaient s'enterrer en secret, de nuit, souvent, dans leur champ. Cette période a duré très longtemps, près de 100 ans, et ce n'est que Louis XVI, vers 1787, qui a fait un édit de tolérance, qui a redonné l'état civil aux protestants. Et est arrivée la Révolution, qui, elle, a mis tout le monde à égalité. Et ensuite, cette égalité a été confirmée par des lois de 1881 et la loi de 1905 de séparation des pouvoirs.
Je reviens un tout petit peu en arrière dans votre propos. Vous parliez qu'ils étaient enterrés dans les champs en secret la nuit. À ce moment-là, il n'y avait aucune structure autour. Hein. On ne parle pas des cimetières.
Non, on ne parlait même pas de...
Il n'y avait pas de sépulture, rien.
Alors ça, je ne sais pas bien. Comment les gens étaient enterrés ? Est-ce qu'ils étaient enterrés dans un drap ou est-ce qu'il y avait vraiment un cercueil en bois ? Ça, je ne le sais pas.
Et un marquage ?
Il n'y avait pas de marquage. Comme c'était anonyme et secret, probablement c'était anonyme, donc il n'y avait pas de marquage. Dans le Diwa, les premiers marquages vraiment importants sont beaucoup plus tardifs. Ils sont des années 1800. Les plus vieilles stèles calcaires avec des noms gravés dessus, dans le Diwa, elles sont des environs de 1800. Les plus vieilles personnes dont on trouve la trace gravée sont nées, par exemple, il y en a une à Poyol, en 1788. Donc le cimetière, comme on le connaît maintenant, avec un muret souvent, un petit enclos, une ferronnerie, une porte, c'est à partir de 1800 et même des fois beaucoup plus tard.
Alors reprenons maintenant sur l'association de sauvegarde des cimetières familiaux. Vous avez commencé, en Drôme, pardon, ouais. Vous aviez commencé une petite description, je vous laisse reprendre.
Donc l'association a eu son assemblée constitutive en présence d'une quarantaine de personnes en avril. Et à ce moment-là, il y a eu un conseil d'administration qui a été mis en place, un président, un trésorier, un secrétaire. Et les statuts ont été approuvés. Le premier but de cette association, parce que c'est assez curieux de le penser, mais aucun inventaire précis et exhaustif de ces cimetières familiaux n'a été fait. On ne sait pas leur nombre total. On n'a aucune fiche bien précise de description avec leurs dimensions, avec quelles sont les personnes qui y sont enterrées, quel est l'état du cimetière, est-ce qu'il est abandonné, bien entretenu, mal entretenu, etc. On n'a rien. Donc le premier but de l'association, c'est de faire l'inventaire de ces cimetières familiaux qui, dans le Diwa, sont aux environs de 250. Et dans le pays de Bourdeaux, aux environs de 170. Il y en a aussi du côté d'Orpierre, il y en a aussi dans le Queyras, il y en a dans l'Ardèche, il y en a moins dans le Vercors qui est resté catholique. Et il y en a moins, disons, le long du Rhône, le long de la vallée du Rhône.
Alors, constater que cet inventaire n'a jamais été fait, c'est une chose. S'en saisir pour le faire en est une autre. Mais le but, au fond, c'est quoi ? C'est une démarche de patrimoine ou...
C'est une démarche de patrimoine. L'association est une association laïque. Hein, donc, c'est une démarche de patrimoine parce que le problème de ces cimetières, ce sont des cimetières privés. Donc, ce sont les familles qui les entretiennent. Mais, dans certains cas, les familles s'en vont très loin ou tout simplement... Elles disparaissent. Il n'y a plus de descendants. Le cimetière lui reste.
Voire elles revendent la terre sur laquelle est le cimetière.
Non, on ne peut pas vendre un cimetière. Mm. C'est inaliénable, non commercialisable.
Donc par exemple, les cimetières qu'on voit au milieu d'une vigne là, la vigne peut être revendue, le terrain aussi, mais le cimetière reste la propriété.
Le cimetière reste. Donc dans certains cas, en effet, le propriétaire qui possède les terrains autour du cimetière n'a plus rien à voir avec la famille qui utilise le cimetière et qui a le droit de l'utiliser.
Donc c'est bien pour ça
elle a aussi le droit d'y avoir accès.
Donc il faut qu'il laisse un chemin. Tout à fait.
Bon, des fois, c'est pas respecté, mais il faut qu'on puisse accéder au cimetière. Et alors le problème qui se pose, par contre, alors, c'est qu'en effet, certains sont complètement abandonnés, certains depuis 50 ans. À ce moment-là, ils sont envahis par les aubépines, le chèvrefeuille, les cornouillers, et ils disparaissent peu à peu, alors qu'ils peuvent avoir de très belles stèles calcaires sculptées. Donc c'est tout un patrimoine qui disparaît. Alors ils ont, ces cimetières ont en fait plusieurs intérêts, parce qu'ils ont un intérêt religieux, bien sûr. Hein, c'est un, Ils sont dans la ritualisation, mais ils ont aussi un intérêt historique, bien sûr, c'est toute une période de l'histoire. Ils ont un intérêt généalogique, pour ceux qui font des recherches généalogiques, ben, ça peut être utile aussi d'avoir des références concernant les gens qui sont enterrés dans les cimetières.
J'allais venir justement sur ce thème. Est-ce que cet inventaire va permettre aussi de retrouver des noms qui auraient éventuellement disparu à un moment?
Oui, oui.
D'habitude, comment dire, les actes de décès ont été longtemps enregistrés par l'Église catholique, puis maintenant par les municipalités. Oui.
Mais quelquefois, il y a des lacunes dans les archives. Hein. Alors, sur bien sûr, il y a très peu de choses sur une stèle. Il y a le nom, le prénom,
la date de naissance, et de
la date de naissance et la date de décès. Des fois, il n'y a même pas. On met des fois né à telle époque et décédé à l'âge de 70 ans, 75 ans. Voilà, c'est assez variable. Assez souvent, mais pas toujours, la tradition de mettre un verset biblique en bas de la stèle. Il est très rare que le nom du sculpteur soit marqué. On ne sait pas qui a fait ces stèles, où elles étaient faites. Donc, ça, on s'est très... Alors, il y a eu aussi, c'est une mode des couronnes en perles qui viennent de Venise, en fait, de Murano. Il y a des cimetières où il y a encore ces couronnes, mais malheureusement, ces couronnes ont un fil de fer qui relie toutes les perles entre elles. Le fil de fer rouille, et au bout de 50 ans, toutes les perles sont dans le sol et la couronne disparaît. Mais des fois, on repère un cimetière abandonné parce qu'il y a des traces de couronnes ou quelques fleurs artificielles. Il existe des cimetières qui sont totalement anonymes. Il y a aussi des familles qui ont gardé la tradition de l'anonymat complet. Alors des fois, elles ont chez elles la liste des personnes enterrées, mais quand on voit sur le cimetière, il n'y a absolument rien. Donc résultat, il y a des cimetières qui sont abandonnés. On voit bien que c'est un cimetière, il y a des croix, il y a quelques objets en faïence aussi qui se maintiennent, mais il n'y a aucun nom.
Vous parliez tout à l'heure de l'aspect patrimonial, historique que pouvait avoir un cimetière. Peut-on aussi lui accorder une certaine beauté et pourquoi pas créer un tour de ces cimetières, puisque c'est souvent des lieux...
Il y a ces cimetières, certains sont très jolis.
Et oui.
Très jolis, c'est un tout petit enclos, il y a un cyprès souvent, ou plusieurs.
Un beau mur de pierre.
Un joli mur en pierre, des fois de la ferronnerie, de belles stèles calcaires. Ils sont souvent au milieu des vignes ou en haut d'un champ de lavande. En général, ils sont soit en bord de champ, soit au milieu d'un champ, rarement en pleine forêt. Il y a quelques exceptions, mais c'est tout de même assez rare. Il y a un pasteur, par exemple, et son épouse qui sont enterrés à Val-Croissant. Eux, ils sont au sommet d'une toute petite colline, complètement dans la forêt. Par contre, ces petits enclos, alors ils sont petits, hein. C'est-à-dire qu'au maximum, disons, ça peut faire dans les 500 mètres carrés. Mais il y en a, c'est 10 mètres carrés. Il y en a qui se réduisent...
La plupart, d'ailleurs, sont 10 mètres carrés.
Il y en a qui se réduisent à une seule tombe. D'autres arrivent à avoir 30 tombes. Ça va de 1 à 30.
Justement, j'ai engagé sur cette partie peut-être un peu touristique. On pourrait faire le tour des cimetières. Mais cet inventaire, vous le destinez à qui ?
L'inventaire d'abord est destiné, disons, aux historiens, enfin, c'est pour l'histoire générale de la région, mais aux familles aussi, parce que chaque famille, en fait, on est en train de mettre en place une fiche descriptive d'un cimetière, avec ce qu'il faut noter, la dimension, l'état, le nom des gens, on peut ajouter des éléments biographiques. Par exemple, à Poyol, il y a le cimetière Archimbault qui a été député maire, un notable de niveau national. Voilà. On peut ajouter des éléments biographiques. Il y a eu des poètes, il y a eu des peintres qui sont enterrés. Il y a le philosophe Legault aussi, par exemple. Sur ces fiches, on peut ajouter des renseignements complémentaires. Et puis, on donne des précisions. Il y a des stèles ou des dalles. En bon état, en mauvais état. Il y a les références de l'association, si on veut des renseignements complémentaires sur ces cimetières. Voilà. Donc il y a l'intérêt pour chaque famille, finalement. D'autre part, avec l'évolution, ces cimetières sont toujours utilisées. Ils doivent avoir ce qu'on appelle un accord hydrogéologique. C'est-à-dire que dans les années 80, c'est un préfet qui a demandé ça, il doit avoir un agrément hydrogéologique pour qu'il n'y ait pas de problème de pollution des nappes phréatiques. Hein. Bon, il n'y en a pas eu, en fait. Aucun cimetière n'a été refusé.
Hein. La plupart ont été bien pensés déjà à l'époque.
Oui. Puis bon, il n'y a vraiment pas de risque. Mais bon, il faut cet accord. Les familles où cet accord a été fait, et il peut toujours se demander, continuer à utiliser ce cimetière.
Souvent, c'est la seule dérogation qu'il leur faut.
Oui. Et il faut l'accord. Quand il y a un décès, il faut l'accord de la mairie. Enfin, c'est les pompes funèbres qui s'occupent de ces problèmes-là. Ces cimetières sont utilisés, mais il y en a qui sont totalement abandonnés. Ça pose un problème parce que il faut comme c'est privé, mais que les descendants ne savent pas où ils sont. Alors, on est en train de se renseigner pour savoir comment sauver ces cimetières qui, dans certains cas, ont de la valeur. Une valeur architecturale, disons, patrimoniale.
Vous avez parlé de ce premier objet, l'objet principal de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux.
Donc ça, c'est l'inventaire.
L'inventaire. Et là, on est en train de glisser tout doucement sur cette partie restauration.
Voilà. Alors ensuite, il y a le problème de ceux qui sont abandonnés. Comment peut-on les restaurer ?
Il faut qu'on
se renseigne sur à qui doit-on demander l'autorisation de restaurer un cimetière abandonné ? Est-ce qu'il faut l'accord des domaines ? Est-ce qu'il faut l'accord de la commune ? On est en train de s'enseigner à ce niveau-là. À l'origine, ces cimetières sont protestants. Mais, bien entendu, maintenant, il y a énormément de mariages mixtes. Et par exemple, c'est mon cas d'ailleurs, ma mère était protestante, mon père était catholique, les deux sont enterrés dans le petit cimetière familial protestant de Poyol. Donc il y a beaucoup maintenant de catholiques qui sont enterrés dans ces petits cimetières familiaux, parce que les gens les aiment bien, la nature est splendide, psychologiquement, ils se sentent peut-être bien dans cet endroit, même quand ils auront disparu. Voilà. Bon, les aime bien.
C'est moins groupé que dans un gros cimetière municipal.
C'est moins groupé, c'est moins anonyme. C'est le cimetière familial. Bon, c'est le côté famille qui peut-être continue au niveau du cimetière.
J'ai une question. Pourrait-on enterrer un ami à la famille, par exemple ?
Ah, c'est possible, mais il faut l'accord de la famille qui a le cimetière. D'autre part, arriver, il y a aussi qu'un cimetière soit complet, plein. Il n'y a plus de place. Donc s'il n'y a plus de place, à ce moment-là, on peut demander à une famille qui a son cimetière familial, qui lui a encore des places, l'autorisation d'être enterré dans ce cimetière familial. Ça, c'est aussi possible. On peut agrandir aussi ces cimetières avec l'accord du propriétaire. Par contre, alors, on ne peut pas... Il y a toute une procédure, je pense, et là, on n'a pas encore tous les renseignements. Créer entièrement un nouveau cimetière, là, c'est plus problématique.
On ne pourrait plus en faire de nouveau, là, à l'heure actuelle ?
Ça semble difficile, mais ça peut-être être quand même encore possible. Il n'y a pas d'interdiction générale.
A priori, il n'y a pas de nouvelles lois qui ont été faites.
Mais il faut l'accord de la commune, l'accord hydrogéologique. Bon, il y a toute une démarche à faire. Il faut être propriétaire du terrain. Voilà.
Pour en revenir à cette partie restauration, comment l'association va s'y prendre, financièrement parlant, par exemple ?
On ne sait pas. Comme c'est une petite association, oui. On n'en sait rien. Et puis le problème que l'on a, on l'a eu, parce qu'on a quand même fait, il n'y a pas longtemps, un acte de sauvegarde. Il y avait dans un jardin de Die, où il y avait de nouveaux propriétaires, un haut de stèle abandonné. Donc les personnes ne voulaient pas garder cet élément de cimetière. Donc ils nous ont appelés et on a réussi à transporter, parce qu'elle s'appelle tout de même 200 kilos, à transporter cette selle, à la mettre dans une remorque. Et maintenant, elle est sur un mur à l'abbaye de Valcroissant. Donc tout le monde peut l'admirer parce que c'est joliment sculpté. C'est un haut de sel de cimetière.
Y aurait-il des accords possibles avec différentes branches du patrimoine, Androme, ou le musée de Die peut-être?
Le musée de Die peut être intéressé. Il peut être intéressé aussi, et je connais Jacques Plançon, par une exposition, bien sûr. Hein, monter une exposition sur l'histoire du protestantisme, les cimetières familiaux, voilà, ça c'est tout à fait possible. Et puis d'autre part, alors, j'ai écrit un article sur les cimetières familiaux, leur histoire, en prenant l'exemple de Poyol que je connais bien, où il y a 30 cimetières familiaux protestants. Parce qu'il y a des villages qui en ont plus que d'autres, d'autres qui n'en ont aucun, selon l'importance de la population protestante ou catholique. Souvent, c'est plutôt dans les villages en hauteur qu'il y a un peu plus de protestants, et les fonds de vallée sont un peu plus catholiques. Mais pas toujours. Par exemple, à Maimblon, il y a beaucoup de cimetières familiaux protestants. La vallée de Quin a beaucoup de cimetières familiaux protestants. Voilà, donc ça varie un peu, c'est un peu bizarre.
Rien que sans aller trop loin dans l'inventaire, ce premier constat visuel permet de savoir où étaient déjà les protestants, les catholiques à une certaine période.
C'est très intéressant. Oui, un peu.
Alors on a évoqué deux points principaux de l'association, hein, les deux buts, un inventaire d'abord et puis éventuellement passer à une phase de restauration. Voilà. Y a-t-il d'autres points?
Il y a un autre point qui est marginal, c'est que dans ces cimetières, il y a des plantes. Et des fois, des plantes qui ont été introduites, ou alors des plantes qui reviennent parce que le cimetière est abandonné et donc qui avait disparu. Donc il y a un côté biodiversité végétale qui peut être quelquefois... une curiosité, il y a un cimetière à Montmort où il y a des encolis, bon, une jolie fleur. Il y a les cyprès, bien sûr. Alors, il y a pas mal de résineux. Alors, pourquoi il y a pas mal de résineux? Le cyprès, parce que c'est un arbre qui ne perd jamais ses feuilles, donc c'est un peu un symbole d'éternité. Quelquefois, on y met un pied de lavande. Des fois, il peut y avoir des iris. Alors, quand c'est abandonné, alors là, c'est un exemple de reconquête de la nature qui revient... Donc là, on a le cornouiller, les ronces, les aubépines.
Tout ce qui est agréable. Pour.
Oui, alors là, ça devient problématique. À Poyol, moi, il y a un cimetière qui était complètement ensevelé de ronces, mais tellement. Mais finalement, avec un sécateur, j'ai réussi par voir qu'il y avait deux stèles dans ce cimetière, avec les noms. C'était l'ancien notaire, le dernier notaire de Poyol. C'était le cimetière du dernier notaire de Poyol.
50 ans de reprise végétale, on peut quand même s'attendre à une dégradation assez importante. Les stèles calcaires, peut-être pas, alors, mais les murets commencent à se faire des sorties.
Les murets peuvent s'effondrer complètement. La ferronnerie rouillée, les portes sont bloquées. Autre problème, dans certains cas, les stèles sont anciennes, sont en calcaire. Et alors, bien entendu, les premiers pionniers végétaux sont les lichens. Et les lichens donc, grattent le calcaire et font peu à peu disparaître les dons. Hein. Alors généralement, avec un simple canif, en grattant un peu, le lichen s'en va et on lit le nom.
Dans la mesure où ça a été bien gravé, par exemple.
Oui, en général, c'est bien gravé. Hein. C'est quand même en creux. Hein. C'est quand même en creux. Donc, voilà, il y a ce problème-là. Il y a des stèles qui sont sans nom aussi, anonymes. Et puis, il y a un autre problème. Il y a des cimetières qui sont... sur des pentes, donc la stèle qui est verticale est posée sur un socle, mais ça bouge un petit peu et la stèle bascule vers le bas. Les noms sont cachés.
Et alors là,
c'est quand même une
stèle
de 200 kilos qui est écroulée.
Bon. Il faut une équipe pour relever tout, quoi.
Voilà. Et puis dans l'association, on a assez peu d'hommes jeunes. Donc on manque de bras dans le sens sportif du terme.
Bien, terminons cet entretien, Jean-Claude Rouchouz, avec cette partie-là. Peut-être qu'il est temps de lancer un appel à des bénévoles. Comment peut-on vous joindre?
Alors l'association a un siège social, hein, Association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme, ASCFD. Et le siège social, c'est Le Verger, quartier Piscine, Adi, 26 150 Adi. En fait, c'est des Diois, vraiment, puisque le moi qui suis le président, j'habite à Die, hein, rue de l'Armellerie. Le trésorier habite à Die et le secrétaire habite à Die. Donc, en fait, c'est trois Diois, vraiment de Die, qui sont parmi les éléments actifs de cette nouvelle association, hein, très récente.
Un numéro de téléphone.
Alors, un numéro de téléphone, c'est le 0475 21 02 00. C'est mon téléphone.
Une adresse mail également, peut-être un site internet.
Alors, il y a un site, plutôt des adresses mail, celle du secrétaire. Donc, c'est cimetières familiaux, hein, lié, cimetières familiaux, @free.fr. Cimetières familiaux, @free.fr.
Une adhésion à cette association.
Alors, l'adhésion, c'est 10 euros pour l'année. Voilà. Et en plus, elle donne droit à la fiche que l'on est en train de mettre au point pour décrire le cimetière.
Voilà, c'est-à-dire qu'après, chaque personne peut devenir un reporter, un chercheur.
Voilà, on peut aussi faire de jolies photographies. Hein. On peut aussi, alors il y a tout de même un projet, éventuellement, vous savez qu'il y a un sentier des Huguenots qui est en train d'être mis en place depuis le musée du protestantisme de Poitlaval jusqu'au nord de l'Allemagne. Et il pourrait y avoir éventuellement une petite bifurcation mise en place pour qu'il y ait un petit peu une visite de certains cimetières. Enfin, ça, c'est à voir avec les communes, si elles veulent monter un circuit de découverte de ces petits cimetières. Ça peut être aussi une possibilité.
Donc vous êtes tellement jeune et tellement ouvert à tout dans cette association.
Voilà. Ouais, ouais. Voilà.
Jean-Claude Rouchouz, président de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux en Drôme, merci.
Voilà, je vous remercie.
Et puis à bientôt.
Entendu.
Interview.
Okay, the bird.